de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, à l'esprit libre et curieux, pour prendre des nouvelles d'un projet enthousiasmant. D'une utopie en construction, il n'y en a pas tant que ça par les temps qui courent, c'est le projet mondial de préservation et de partage de notre patrimoine numérique commun. Software Heritage, une véritable bibliothèque universelle des codes sources, des logiciels libres, imaginée et construite en réseau par notre invité, le chercheur en informatique Roberto Di Cosmo, dans l'esprit des pionniers du web, le partage et la diffusion des connaissances en toute liberté, ouvert à tous sur la planète. Depuis 2017, l'UNESCO, le CNRS et de nombreuses institutions universitaires et techniques à travers le monde ont répondu présent à cette initiative sans précédent. Pourquoi et comment partager ce patrimoine universel de l'humanité? Bienvenue au cœur de ce chantier pas tout à fait comme les autres, sur le site virtuel de la Bibliothèque universelle des codes sources et des logiciels libres.
Programs must be written for people to read and only incidentally for machines to execute.
C'est un des pionniers et fervents défenseurs du logiciel libre, le chercheur Harold Abelson du MIT, qui le disait en 1985, je traduis, les programmes informatiques doivent être écrits pour que les gens puissent les lire et accessoirement pour que les machines les exécutent. Merci de nous le rappeler, Roberto Di Cosmo, bonjour.
Bonjour Caroline, un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui.
Un plaisir partagé d'être en direct avec vous ensemble en studio. Donc Roberto Di Cosmo, pour nous donner des nouvelles de ce formidable projet de bibliothèque universelle des codes sources et des logiciels libre, un projet, alors j'ai envie de dire, à la fois essentiel, utopique et monumental, que vous construisez, que vous portez avec votre petite équipe, Roberto, depuis plus de 3 ans. Je rappelle que vous êtes chercheur en informatique, détaché de l'INRIA, porteur, donc initiateur et développeur de Software Heritage. Alors comment vous définiriez ce projet très inspirant? Moi j'ai envie de dire que c'est un des projets les plus inspirants de la décennie,
Merci de dire ça. Ça fait plaisir de voir qu'effectivement, on peut apprécier l'importance des logiciels qui sont autour de nous. Vous voyez, si on se regarde autour de nous aujourd'hui, tout notre monde, et en particulier dans cette période de crise dans laquelle on a besoin des visioconférences, des communications, des courriers électroniques, d'activités, d'applications de partout, ce sont les logiciels qui sont au cœur de notre société. D'une certaine façon, ils construisent les tissus de notre société moderne. Mais alors, déjà les logiciels, on a un peu du mal à les voir, parce qu'on appuie sur tout, sur des boutons, on voit des applications, etc. Mais il faut savoir, ces logiciels, ils ne sortent pas des rien. Ils ont été développés, écrits, on dit effectivement écrire un programme. Ils ont été écrits, conçus par des personnes, par des êtres humains qui ont développé ces logiciels, les codes sources de ces logiciels, qui après sont traduits dans un langage qui est exécutable par la machine. Mais effectivement, les premiers efforts sont faits par des êtres humains qui décrivent les fonctionnements de ces applications, de ces logiciels que nous utilisons. Ce sont des descriptions très complexes. Vous savez, quand j'étais plus petit, j'étais un fanat d'astronomie et des fusées, etc. Je me rappelle, la navette spatiale, on m'avait dit, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était l'objet le plus complexe jamais conçu par l'être humain. On parle des années 80. Aujourd'hui, les logiciels sur lesquels nous appuyons pour faire fonctionner notre société sont énormément plus complexes que ces navettes spatiales d'un temps. Dans les systèmes d'exploitation, ce qu'il y a dans notre téléphone, les
chacun divers. De ces logiciels est
chacun de ces
est
logiciels d'une complexité énorme. Et pour les faire fonctionner, il faut effectivement arriver à les comprendre. Et il y a toute une population technique, des nouveaux littéraires du 21e siècle, qui sont les développeurs, qui écrivent cette littérature technique pour que les machines puissent faire ce dont on a besoin. Mais il faut savoir que justement cette littérature technique était normalement réservée au cercle des gens qui développent. Mm-hmm. Et était donc peu vu, peu connu, mais c'est une partie essentielle de notre patrimoine culturel, technique et scientifique. Et on s'est aperçu il y a 5 ou 6 ans qu'effectivement, personne s'intéressait à préserver ces patrimoines culturels, à faire en sorte qu'ils soient réunis dans une unique grande bibliothèque d'Alexandrie pour que ça soit accessible après à tous et préservé sous les longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé dans cette initiative, vous dites ambitieuse, un peu folle, mais je dirais passionnante, mm-hmm. d'aller retrouver tous ces logiciels, collecter tous ces logiciels, tous ces codes sources, les archiver de façon qu'on ne puisse pas les perdre et faire en sorte que ça soit facilement accessible à tous.
Alors, on va revenir sur justement comment vous faites, parce qu'à chaque étape, il y a des questions. Vous avez commencé, on l'a dit, et on l'avait dit ici même en 2018, hein, quand je vous avais reçu au démarrage de Software Heritage, que vous avez commencé par collecter, parce qu'en plus, ils sont encore vivants, ou ils étaient encore vivants, les codes sources des tout premiers informaticiens. Parce qu'on le rappelle, enfin, même pour moi, si j'ai bien compris, les codes sources, c'est évidemment un langage informatique, mathématique, mais avec des annotations absolument humaines de chacun de ces développeurs pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les reproduire. Et vous avez commencé par collecter ces trésors, effectivement, culturels, techniques de l'humanité avant qu'ils ne disparaissent. Vous avez notamment récupéré le code source d'Apollo, hein, vous parlez d'astronomie, c'est ça.
Il y a énormément de logiciels anciens, mais qui restent quand même passionnants. Effectivement, parmi les plans des logiciels qu'on peut retrouver dedans, il y a les codes sources du système de contrôle et guidage de l'Apollo 11 qui a permis de mettre les pieds du premier homme sous la Lune. Et au passage, je signale que ça, c'est grâce à une femme qui était Margaret Hamilton, qui avait piloté l'équipe des personnes qui ont développé ces logiciels. Mm-hmm. Et finalement, on peut aller regarder ces logiciels et vous les trouvez. Je vais essayer d'expliquer ça travers la radio, n'est-ce pas ? Donc, si vous regardez dans l'archive, vous allez retrouver quelques bribes de ces logiciels-là. Et là-dedans, par exemple, sous la colonne de gauche, vous allez voir un charabia technique totalement incompréhensible. Non, ça, c'est quelque chose qui est réservé pour être traduit pour la machine. Et normalement, dans la colonne des droites, il y a tout un tas de commentaires écrits en anglais, parce que c'était l'équipe américaine à l'époque, dans lesquels essentiellement les développeurs annotaient ce que le logiciel était censé faire à cet endroit-là. Donc, par exemple, voilà, il fallait retourner les modules lunaires pour mettre les pattes vers la Lune pour pouvoir atterrir. Et donc, à ce moment-là, il fallait faire tout un tas d'instructions. Tous ces commentaires étaient effectivement annotés. Et ces commentaires n'existent plus pour la machine. C'est-à-dire, une fois qu'on construit l'exécutable qui est souhaité par la machine, ces commentaires disparaissent. Ces commentaires sont seulement une transmission des connaissances du développeur, de la personne qui a écrit le logiciel, à l'autre personne qui va devoir lire les logiciels et qui peut être la même personne un peu plus tard.
C'est donc d'humain à humain. C'est d'humain ça, au fond, c'est pas humain. D'humain pour la machine, c'est d'humain à humain.
Évidemment, d'une certaine façon, des fois, on peut dire les codes sources des logiciels, c'est un message envoyé d'un humain à l'autre humain pour lui expliquer ce qu'on veut que l'ordinateur fasse. Et effectivement, d'ailleurs, et ça c'est très important, parce que quand il y a un problème, vous savez que ces objets sont très complexes, quand il y a un problème, il faut retrouver l'explication de ce qu'il fait. Et toujours pour revenir à l'Apollo 11, il y a un moment mythique, un moment de l'alunissage, à quelques dizaines de secondes, donc une poignée de secondes de l'alunissage, il y a un code d'erreur qui s'affiche sur l'ordinateur de bord, qui était 1201, et on entend Armstrong qui parle avec une froideur, un sang-froid impressionnant. Il demande à Houston de lui expliquer qu'est-ce que ça veut bien dire 1201.
Oh, mon Dieu.
Et là, il y avait les jeunes ingénieurs qui avaient la pile de tous les codes sources qui fouillent dedans pour voir qu'est-ce que c'est bien, ces codes 1201 à l'époque. Et très rapidement, il découvre que finalement, c'était un détail mineur, il n'y avait rien de grave. Donc, il a dit « Ok, on y va ». Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers alunissages. Vous voyez ? Ces commentaires sont
de l'importance donc de ces commentaires qu'il faut donc retrouver, collecter, archiver, partager. Alors à chaque fois, à chaque étape, ça soulève des questions monumentales autour donc de toutes ces questions soulevées par la mise en place de cette bibliothèque universelle des codes sources et des logiciels. Il y a évidemment celle de la quantité de données à archiver et à partager qui ne cesse d'augmenter, comment dire, chaque année, chaque mois, chaque jour, presque chaque seconde. Comment faire avec l'exponentiel ? C'est tout le sens de la question que vous pose Roberto Cécile Lestienne, ma consoeur, directrice de la rédaction de Cerveau et Psycho.
Ces projets de conservation sont toujours fascinants et intéressants. La question que je me pose, c'est comment, derrière, va-t-on pouvoir étudier tout ça ?
Roberto Di Cosmo, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça, de tout ce que vous collectez
C'est une excellente question. Effectivement, déjà, retrouver tous les logiciels, ce n'est pas facile parce qu'ils sont pas mal éparpillés sous la planète. Il faut tous les collecter. Il y a des plateformes qui ne sont pas tout à fait compatibles les unes avec les autres. Mais une fois qu'on a construit tout cet archive, c'est qu'on est en train de faire. Vous voyez, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a déjà 150 millions de projets logiciels archivés.
150 millions.
Wow. Alors, il y en a des tout petits qui n'ont aucun intérêt, et il y en a des très grands, très sophistiqués, historiques, comme c'était le code de la Apollo 11, ou des noyaux Linux qui est utilisé partout dans nos ordinateurs modernes. Évidemment, il y a un peu de tout. Pas comme dans une grande bibliothèque. Vous avez les grandes œuvres et les petites œuvres.
Bien
donc
sûr,
là, c'est
bien
pareil.
Sûr.
Et ce qu'on est en train de faire, on structure tous ces logiciels dans une structure de données très particulière. On ne va pas rentrer dans les détails techniques ici, mais qui permet effectivement de tracer non seulement les logiciels eux-mêmes, mais comment ils ont été développés, par qui, comment ils ont évolué d'une version préliminaire, en version intermédiaire, en version finale, etc.
D'avoir trace de tout, de garder
toute trace
de tout.
Toutes les modifications, okay. Qui a modifié quoi, pourquoi, quel moment, etc. Parce qu'ils viennent en fait des besoins de développer des objets techniques aussi complexes, il faut garder trace de leurs modifications. Donc nous, on préserve tout ça, et cet énorme graphe, cette énorme structure mathématique qu'on construit, ça nous donne une sorte de vision complète de l'évolution du développement logiciel sur les dernières 60 années. Donc, vous voyez, effectivement, comment étudier tout ça? Il y a tellement de prismes et d'axes pour regarder la chose. C'est-à-dire, on peut avoir un prisme purement technique, c'est-à-dire d'essayer de voir, par exemple, la qualité de certains logiciels, comment ça a été évolué. Ça, c'est un domaine d'étude, par exemple, un génie logiciel, qui est une branche de l'informatique. Vous pouvez avoir des études de nature plus, comment dire, sciences humaines, c'est-à-dire l'histoire des communautés de développement. Ou alors, vous voyez, pour citer mon numéro 2 sur les projets, qui est Stefano Zacchiroli, un autre Italien. Vous savez, il y a des Italiens qui arrivent en France dans un autre. Et il a publié récemment un article passionnant dans lequel il a regardé tout l'historique qu'on a reconstruit dans l'archive pour voir quelle est la contribution des femmes, par exemple. Et là, il a découvert qu'historiquement, à peu près, il y avait à peu près 8% des femmes parmi les contributions des logiciels depuis très, très longtemps. Mais il y a un petit espoir, parce que maintenant, on regarde sur les dernières années, on est passé des 8 à 10%, par exemple.
Et on a
besoin de plus de femmes, on a énormément besoin des femmes.
Appel à toutes les informaticiennes et futures informaticiennes qui nous écoutent. Mais comment fait-on pour retrouver, selon les critères que l'on choisit, est-ce qu'il y a un moteur de recherche parce que c'est possible de faire pour retrouver dans cette immense banque de données, de logiciels, bibliothèque universelle des codes sources.
Ça, c'est un grand défi. Effectivement, fait construire. Vous voyez, parce qu'effectivement, on est tellement habitué dans notre monde d'aujourd'hui à avoir des outils informatiques extrêmement performants, les moteurs de recherche, les systèmes collaboratifs, qu'on a tendance à les prendre pour acquis. Donc, évidemment, ça doit être facile de faire un moteur de recherche sur les codes sources des logiciels. Vous avez tellement de moteurs de recherche, pour ne pas inciter, voilà, Google, Bing et compagnie. Ou Quant, les recherches français.
Libre.
Et mais construire un moteur de recherche, c'est extrêmement compliqué. Donc, nous avons commencé par avoir un moteur de recherche simple qui vous permet de chercher, non pas à l'intérieur des logiciels, mais dans les noms des 150 millions des logiciels, des projets qu'on a besoin d'archiver. Donc, si vous connaissez
l'URL... Quand on le connaît, on peut le retrouver.
On peut le retrouver. Par contre, l'étape suivante, qui est un défi beaucoup plus important, c'est de pouvoir chercher à l'intérieur de cette grande masse de codes de façon intelligente pour poser des questions du style est-ce qu'il y a un logiciel qui est utile en biologie aujourd'hui pour les virus? Est-ce qu'il y a un logiciel qui a été développé récemment et il y a un logiciel qui est compatible avec tel système d'exploitation ou qui a été développé par des développeurs sous plusieurs endroits de la planète? Donc, poser ce type de questions-là, c'est quelque chose auquel on veut répondre, mais il faut plus de ressources de celles que nous avons aujourd'hui. Donc c'est dans la ligne des mires de ce qu'on veut faire, on espère y arriver un peu plus avant.
Petit à petit, lentement, mais l'oiseau de cette bibliothèque universelle fait son nid autour de la question comment construire cette bibliothèque universelle et virtuelle des codes sources accessibles à tous, parce que rappelons bien que c'est cette philosophie-là des pionniers du web, c'est vraiment pour que tout le monde puisse y avoir accès, on va y revenir. On continue de s'interroger ensemble, Roberto Di Cosmo, sur cette utopie en marche et en train de devenir réalité, à l'écoute de votre choix musical. Alors c'est Vangelis qui vous inspire, Conquest of Paradise. Tiens donc, vous nous direz pourquoi ensuite. Vangelis sur RFI, Conquest of Paradise. Pourquoi ce choix, Roberto Di Cosimo?
Mais si vous voulez, donc c'était d'abord, j'adore Vangelis, ça me rappelle quand j'étais un peu plus jeune. Mais là, vous voyez, ça, c'est la bande sonore qui était associée à ces films. On voit la découverte de ces continents nouveaux, la découverte de l'Amérique, c'était la conquête du paradis. Et je pense que ça nous inspire un peu, parce que les travaux qu'on est en train de faire, justement, d'aller récolter tous ces codes sources qui étaient relativement inconnus du grand public, alors qu'ils sont fondamentaux dans notre société moderne, on est en train de construire un peu, de découvrir, de remettre ensemble ces continents nouveaux qu'il faut découvrir. Alors, est-ce que c'est un paradis? Ben c'est non, c'est un peu plus compliqué, effectivement, parce qu'il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas suffisant de débarquer, planter un drapeau. Mais disons, c'est un peu ça, l'inspiration, le moyen de reconstruire quelque chose qui est passionnant et fascinant.
Et un nouveau paradis partagé par tous, parce que c'est vraiment ça qui est à la base, autour de la question quelle nouvelle de la Bibliothèque universelle des codes sources. Ce sont plusieurs des bonnes nouvelles que vous nous donnez, Roberto Di Cosimo, sur l'avancée de ce projet, donc d'archivage, de collecte, de préservation, de partage de ce patrimoine numérique mondial, ces codes sources et logiciels inventés, on l'a dit, par des hommes, mais aussi par des femmes, pour d'autres hommes et d'autres femmes, et pas juste pour faire tourner des machines. À ce sujet, une autre citation que vous nous avez soufflée d'un des pionniers du web qui vous inspire, Roberto Di Cosimo, c'est le professeur à Stanford et pionnier de l'algorithmie, Donald Knuth.
Programming is the art of telling another human being what one wants the computer to do.
L'art du codage, l'art de la programmation, c'est l'art de dire à un autre être humain ce que l'on veut que l'ordinateur fasse. Vous nous remettez les pendules à l'heure, j'ai l'impression, là, Roberto Di Cosimo, parce qu'on a un peu l'impression de se faire, justement, calculer par nos ordinateurs. Or, au départ, tout ça, c'est bien des êtres humains qu'il introduit dans des machines pour servir d'autres êtres humains, et pas les machines elles-mêmes. Ce n'est pas les machines ni que l'on sert, ni qui doivent nous commander, nous calculer.
Exactement, et c'est ça que je trouve aussi fascinant, parce qu'on a tendance à regarder, par exemple, l'informatique comme un objet purement technique, mais en réalité, c'est une histoire des femmes et d'hommes, ce sont des histoires passionnantes. Vous retrouvez des personnes qui ont découvert tout ça au moment, en réalité, on ne savait même pas à quoi ça allait servir. Et finalement, ça a complètement transformé notre monde. Et c'est ce qui nous a permis de réagir aussi vite à cette crise des virus aujourd'hui. Si vous regardez, ce sont les moyens technologiques qui ont été développés grâce à ces développements des logiciels, à travers de l'Internet, du web, de toutes les technologies et tous les systèmes, tous les programmes qui ont permis d'analyser ces virus et de réagir très rapidement, qui finalement nous permettent de reprendre un peu la main sur cette crise. Vous voyez, donc c'est important qu'on sache que tout ceci existe, que ceci est important, que c'est aussi un patrimoine, que c'est aussi accessible à tous.
Voilà, c'est à la fois un patrimoine essentiel et ça doit être accessible à tous. On va y revenir parce que c'est ça aussi des grandes questions aujourd'hui. Et c'est bien pour ça que vous avez voulu monter cette bibliothèque universelle des codes sources et des logiciels libres. Parce qu'il faut bien que les logiciels soient libres pour qu'on puisse monter.
Mais nous, on garde tout, vous inquiétez pas.
Vous gardez tout.
Les logiciels libres, on garde absolument tout.
Formidable. Voilà. Mais vous gardez tout à travers le monde. Je propose, Roberto, d'écouter autour de la question quelle bonne nouvelle de la bibliothèque universelle des logiciels. L'éclairage inspirant aussi de Magda Fusaro. Elle est rectrice de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, la première université hors Europe qui a rejoint ce projet Software Heritage en 2018. Magda Fusaro est interrogée par notre reporter Charlie Dupiot.
Au début du projet, lorsqu'on m'a gentiment demandé pourquoi il fallait, entre guillemets, adhérer, c'est pas une obligation, c'est vraiment un souhait réel de faire contribuer des organismes comme le mien, comme l'Université du Québec à Montréal, qui est donc une grande université à Montréal, à un projet qui dépasse simplement le rôle des institutions, puisque je pense que c'est un projet de bibliothèque, tout simplement. Software Heritage, c'est une immense bibliothèque, une library du logiciel code source libre, et de pouvoir garder des traces de tout ce code fabuleux qui se crée, pour permettre à d'autres développeurs, programmeurs, analystes et autres personnes qui croient en l'informatique, et on est nombreux, je crois, par les temps qui courent, à considérer que ça a quand même pas mal d'avantages, donc de pouvoir un jour, dans 50 ans, 50 000 ans, qui sait, avoir accès à ces données, parce que ce sont des données brutes du code, et il faut le protéger au même titre qu'on protège un patrimoine, par exemple, qu'il s'agisse de patrimoine historique, de patrimoine urbain, sans parler bien sûr de la littérature, tout le patrimoine qui nous vient des livres. Donc, pourquoi on conserverait l'un et pas l'autre? Et l'autre aspect que j'ai trouvé fascinant dans ce projet, c'est d'éviter de refaire les choses. Quelqu'un qui a développé un code fabuleux, une ligne, plusieurs milliers de lignes de code, pourquoi ne pas y avoir accès et permettre à des jeunes, plus jeunes et moins jeunes d'ailleurs, de s'approprier ce code-là, de pouvoir le partager, l'améliorer, en faire un vrai projet logiciel et de créer quelque chose de nouveau à chaque fois, de le faire à l'échelle d'une planète, c'est fabuleux, c'est juste fabuleux.
Et qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer ? Qu'est-ce qui reste à améliorer pour vous dans ce projet ?
Peut-être certainement de voir de quelle manière on peut davantage impliquer les plus jeunes. En fait, ceux qui choisissent le baccalauréat en informatique, donc l'équivalent de la licence, comment intégrer nos jeunes étudiantes, étudiants tout de suite à se préoccuper du patrimoine code. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui mériterait qu'on puisse faire une opération, quelle qu'elle soit, d'éducation. Comment développer une culture du patrimoine pour permettre à un organisme comme celui-ci de pouvoir avoir davantage d'abonnés, de contributeurs. Je pense que ce serait quelque chose qui serait intéressant. Et également, l'autre aspect qui n'est pas banal, mais là, ça relève plutôt des politiques publiques, comment faire en sorte que nos gouvernements soutiennent ces initiatives ? Parce qu'il faut les encourager également par l'entremise de politiques publiques, favoriser les dépôts, contribuer réellement. Les gouvernements sont des grands producteurs de code également. Tout ce qui est de la notion d'un patrimoine mérite d'être protégé. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est sous le patronage de l'UNESCO, au même titre qu'un jour, peut-être, certaines lignes de code ou certaines programmations recevraient un label, qui serait de l'ordre du patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que je crois que ça va faire partie de quelque chose qui va rester pour les années à venir. Et il me semble que c'est important, oui, tout à fait.
Vous voulez réagir, Roberto Di Cosmo, à ces propos donc, de Magda Fusaro, rectrice de l'Université du Québec à Montréal, c'est-à-dire la première université Europe qui a soutenu ce fabuleux projet de bibliothèque universelle des logiciels. Et elle le soutient ô combien, elle a tout compris.
Exactement. C'était passionnante la rencontre avec Madame Fusaro. Donc, elle était déjà rectrice quand on s'est rencontrés, elle est encore rectrice. Et elle a compris immédiatement la portée du projet. Donc ça, c'était un énorme plaisir d'échanger avec elle. Et effectivement, touche à des sujets qui sont importants. Effectivement, la reconnaissance du patrimoine logiciel en tant que tel, ce n'est pas juste un objet technique, c'est beaucoup plus que ça. C'est une partie de notre patrimoine culturel. Et l'importance de faire en sorte que les jeunes s'en saisissent de cette importance. Ça, c'est
le comprennent, se rendent compte à quel point c'est important et à quel point c'est notre trace, enfin celle aussi qu'il faut transmettre. Il y a vraiment la question de la transmission aux générations futures pour qu'ils puissent revenir dessus, comprendre, l'améliorer. Enfin, il y a cette question-là.
Il y a cette question-là et effectivement l'effet n'est pas se limiter à la dimension purement technique de l'objet que nous traitons. Il faut regarder tout ce qui se passe autour, dans tous les contextes, comment les gens travaillent ensemble pour les développer, pour les faire avancer, etc. Et aussi retrouver la trace. Vous voyez, des fois, c'est comme les vents. Et des fois, un vent ancien peut être meilleur qu'un vent tout jeune. Donc, un ancien logiciel n'est pas forcément mauvais. Vous pouvez trouver des algorithmes particulièrement intéressants, bien développés, qui peuvent dater d'il y a longtemps et qui sont encore intéressants aujourd'hui. Donc, savoir retrouver l'ancien et retrouver les choses intéressantes est important.
On peut les développer et les jeunes peuvent les développer, revenir dessus. Enfin, les jeunes, oui, ou des esprits plus jeunes ou nouveaux peuvent revenir sur des anciens logiciels.
Et des fois, en regardant un peu les passés, il y a une vertu pédagogique. C'est-à-dire, vous voulez comprendre bien comment les systèmes de jeu sont hyper complexes, fonctionnent. Des fois, ça aide de voir comment des systèmes anciens qui étaient plus petits, qui étaient à l'origine plus simples, comment ils posaient les questions et comment on s'y attaquait. Donc ça, c'était une façon plus simple de voir les projets complets qui étaient plus petits, plus limités, et pour mieux comprendre ce qui se passe dans les systèmes complexes aujourd'hui. Donc il y a cette dimension-là pédagogique qui n'est pas à oublier. Mais il y a une remarque de la rectrice que je trouve particulièrement importante. Vous voyez, ce qui revient à votre question de tout à l'heure. Donc effectivement, quand on a décidé de lancer Software Heritage, on n'avait rien, c'était juste une vision, mais la vision était claire dès le départ. Et nous, ça grâce au fait de l'avoir travaillé avec des personnes comme Jean-François Grammatic, qui était un des premiers directeurs de W3C, comme Antoine Petit, comme d'autres avec qui on a discuté du projet. Et l'idée, c'était vraiment de construire une infrastructure, une bibliothèque qui est propriété de toute la planète, au service de toute la planète. Ce n'est pas construire une start-up, une entreprise, ou juste une organisation purement limitée à un seul pays. On souhaite que cet objet soit vraiment partagé par tous et préservé à long terme, et qu'il réponde aux besoins à la fois du patrimoine culturel, de la recherche, et pas seulement la recherche sur les passés, mais la recherche sur les futurs, comprendre comment trouver rapidement les meilleurs codes, les choses les plus adaptées à nos besoins, et aussi à l'industrie, et aussi à l'éducation. Donc il faut qu'on adresse tous ces panoplies des sujets. Et pour ça, on a besoin des soutiens des différentes natures. Donc, si vous regardez sur les sites web aujourd'hui, vous verrez qu'on a plusieurs soutiens. On a des soutiens d'industriels, on a des soutiens d'universités. Mais petit à petit, on commence à avoir des vrais soutiens institutionnels. Donc on est très content d'avoir vu les CNRS qui nous a rejoints récemment.
Le Centre national de la recherche scientifique.
Mais aussi, par exemple, le ministère de la Recherche. Vous retrouvez aussi des services du Premier ministre pour l'archivage des codes sources publiques. Donc ça, c'est porté par la DINUM, qu'on remercie. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on dépasse nos frontières, il faut qu'on trouve un soutien à travers plusieurs gouvernements et plusieurs institutions à niveau international.
C'est
le travail qu'on essaye de faire, mais non avec l'aide de l'UNESCO.
C'est ça, avec l'aide de l'UNESCO, d'essayer d'élargir, donc hors Europe, au-delà, on l'a bien compris, au Québec, mais de toucher les Suds, hein, très important.
Absolument.
De partager avec les Suds. On y viendra aussi pour ce qui est de la préservation, hein, de toutes ces archives, les préserver dans plusieurs endroits de la planète. Quid des GAFA, des grosses entreprises privées? Est-ce qu'elles sont, parce qu'elles sont quand même concernées, même si ce n'est pas du logiciel libre, est-ce que vous avez leur soutien? Est-ce qu'elles sont
si vous savez, compliquées, hein? Il y a 20 ans, moi j'étais un peu le porte-parole du logiciel libre en France quand c'était difficile.
Ouais,
aujourd'hui,
ouais.
C'est beaucoup plus facile de défendre le logiciel libre parce qu'il est utilisé quand même assez largement par pas mal d'entreprises. Même les grandes entreprises, vous parlez des GAFA, mais ils sont des utilisateurs massifs
de logiciels libres.
Après, à mon avis, ils pourraient faire beaucoup plus de ce qu'ils font aujourd'hui pour soutenir le logiciel libre. Des fois, c'est juste des petits gestes, d'accord? Ça serait bien qu'ils s'engagent beaucoup plus de ce qu'ils font maintenant. Mais je ne pense pas qu'ils nous voient comme un compétiteur, ni comme un ennemi. Au contraire. La réalité, ce qu'on fait, on véhicule l'importance du développement logiciel, ce qui est quelque chose d'essentiel pour toute l'industrie, et on fournit essentiellement une base de connaissances, des références universelles pour tout le monde, qui a aussi des applications potentiellement industrielles, avec la différence qu'on n'est pas là pour enrichir des actionnaires, on est là pour maintenir sous le long terme une infrastructure au service de tous. C'est une sorte de bien commun, et donc tous les défis est comment faire pour maintenir ces biens communs au service de tous sans que personne puisse tirer la couverture un peu trop de son côté. Vous voyez donc,
sacré défi, Philippe. On n'a pas l'habitude de ça aujourd'hui, mais on a besoin de ça aujourd'hui, franchement.
Je trouve que c'est une des choses qui me permet de dormir bien la nuit et d'être content des choses qu'on fait, d'énergie qu'on met tous dans notre équipe.
Malgré le boulot et l'énergie considérable que vous devez mettre là-dedans, Roberto Di Cosmo. Et plus ça marche, on comprend bien, plus ça s'étend, et ça va s'étendre, cette Bibliothèque universelle des codes sources, plus ça ouvre des questions, à commencer par celle que soulève tout de suite Mathieu Novak, mon confrère de Sciences et Avenir. On l'écoute.
Il y a toujours cette question dans l'archivage, est-ce qu'il faut tout conserver? Et donc, elle se posera aussi fatalement pour le logiciel une fois que les quantités de données seront monstrueuses. Est-ce que vous pensez qu'éternellement, il faudra conserver tous les logiciels? Et sinon, comment va-t-on choisir ceux qu'on garde?
Comment faire le choix? Est-ce qu'il faut faire un tri d'ailleurs, Roberto?
Ça, c'est une très belle question. Parce qu'effectivement, la bibliothèque qu'on construit, une bibliothèque un peu particulière. Si vous voyez, parce que quand on discute avec nos collègues qui sont archivistes ou bibliothécaires, et on leur explique ce qu'on fait, ils restent un peu surpris. Parce qu'effectivement, nous ne filtrons rien. C'est-à-dire, on ne prend aucune décision de décider qu'est-ce qui mérite d'être archivé, qu'est-ce qui ne mérite pas d'être archivé. Mais ça peut être surprenant, hein, parce que quand vous êtes un bibliothécaire, s'il y a quelqu'un qui arrive chez vous avec un brouillon des papiers sur lesquels il a gribouillé quelque chose et il demande de déposer à BNF, on vous est conduit gentiment à la porte en disant pas forcément là,
votre liste de courses ne nous intéresse pas.
Il faut garder ces petites notes. Non? Alors que nous, au contraire, on dit merci, ça nous intéresse, on dépose tout et on récupère tout. Pourquoi? Alors, pour deux raisons. Une première raison est une raison technique. C'est grâce au type de technologies qu'on utilise, et à nouveau, ça va au-delà de la discussion d'aujourd'hui, faites-moi confiance. Donc, on utilise une technologie qui nous permet effectivement de dédupliquer massivement tous les contenus de l'archive. Si vous voyez, dans les logiciels, on réutilise...
Dédupliquer.
Je vais expliquer.
Oui.
Dans les mondes du logiciel, du développement logiciel, on réutilise très souvent les mêmes segments, les mêmes routines. On réutilise pas mal des choses, donc on copie beaucoup. Ce n'est pas vraiment du plagiat, hein. C'est que des fois c'est nécessaire, on est obligé de copier. Donc il y a pas mal de redondances. Donc si on arrive à enlever cette redondance et à tout comprimer dans une structure plus compacte, on arrive à tenir dans des volumes qui ne sont pas énormes. Et donc grâce au fait qu'aujourd'hui vous avez la croissance de la mémoire sur disque, sur de différentes technologies qui est utilisée pour vous permettre de mettre sur YouTube ce que vous voulez. Donc grâce à ça, la taille qu'on utilise, nous, pour archiver tous ces logiciels, n'est pas énorme. Donc on peut se permettre de ne rien jeter. Mais même si on peut se permettre de rien jeter, on peut se poser la question, mais pourquoi garder tout quand même? Il y a une vraie réponse philosophique là derrière, c'est vient du fait que les logiciels tels qu'ils sont développés maintenant, surtout aujourd'hui avec l'essor incroyable du logiciel libre et de l'open source, vous retrouvez souvent des tout petits projets qui sont déposés, mis à disposition du public. Et quand vous regardez les tout petits projets, en soi, est-ce qu'il faut les garder ou pas? Ça ressemble à un gribouillis sur un papier. Mais vous ne savez pas si c'est gribouillis sur un papier, c'est Picasso qui a fait un dessin sous les coins de votre table au restaurant. Oui. Malheureusement, on espère d'y revenir au restaurant. Mais, ou si c'est juste un gribouillis qui ne voit rien. Et donc, comme on ne peut pas savoir quelle est sa valeur, on garde avec l'idée que plus tard, s'il a de la valeur, s'il va se développer, si ce petit gribouillis va devenir un grand logiciel qui est très important, on aura des traces de tout, même des premiers gribouillis de son développement.
Dans l'idée qu'on va garder les traces de ses premiers les prémices, l'origine de ses esquisses, dans l'idée aussi que d'autres peuvent s'en servir pour aller beaucoup plus loin, c'est ça?
Pour comprendre comment il a été développé, pour comprendre d'où ça vient, pour connaître toute l'histoire de ce qui a été fait.
Et alors comment, puisque vous gardez tout, ça on l'a bien compris, c'est pas trop volumineux entre guillemets, puisque vous arrivez à supprimer les redondances, mais comment vous faites? Une copie, deux copies, mille copies, comment vous faites?
Ah, ça c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, c'est tellement compliqué de réunir tous ces logiciels en se connectant avec plein de plateformes, etc., pour lesquelles d'ailleurs on a besoin d'aide pour élargir ce type de couverture. On ne veut pas les perdre, tous ces contenus, une fois qu'on l'a. Donc comment on fait pour s'assurer de ne pas les perdre? Là, vous voyez, essentiellement, on utilise deux stratégies. Une première stratégie interne chez nous, c'est effectivement d'avoir plusieurs copies sous notre contrôle. Donc on en a aujourd'hui essentiellement trois, à peu près, sous notre contrôle complet.
De Software Heritage, oui. L'équipe de Roberto Di Cosmo.
Voilà, de toute l'équipe. Ce n'est pas mon équipe à moi, disons, c'est toute l'équipe ensemble qui travaille sur le projet. C'est un projet qui me dépasse largement. Mais, il y a trois copies sous notre contrôle. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on pourrait devenir tous fous et décider de bouler tout ce qu'on a fait. Et donc ça, ce n'est pas bien. Donc là, on pourrait se faire pirater, juste par accident. Donc on a lancé un deuxième programme pour essayer de préserver ça largement. C'est ce qu'on appelle un programme des miroirs. Alors qu'est-ce que c'est un miroir dans notre terminologie? C'est une copie de l'archive complet, mais qui n'est pas sous notre contrôle, qui est sous le contrôle de quelqu'un d'autre, une autre entité.
D'accord.
Et donc, pour l'instant, on a signé des accords, un avec une entreprise en Suède, l'autre avec une grande institution de recherche qui est NEA en Italie, pour avoir deux premières copies indépendantes, donc ces miroirs. Et l'avantage est que même s'il arrive quelque chose aux copies sous notre contrôle, sinon on disparaît, on devient tous fous, on décide de se suicider, j'espère que ça n'arrivera pas, hein, malgré le confinement continu.
Oui, tenez bon. Voilà, malgré tout, si ça vous arrivez de devenir fou, on est tranquille, il y a des copies en miroir.
Ne dépend pas de nous. Et donc ça, c'est le travail qu'on est en train de construire maintenant. On n'y a pas encore, hein, on est au milieu du guet. Donc on espère ne pas devenir fou tout de suite, parce qu'il faut d'abord remettre en place les autres miroirs.
Oui, vous devez mettre en place les autres miroirs, j'imagine ailleurs aussi, et ce qui évite aussi une forme de souveraineté locale aussi, d'un pays national. C'est vraiment universel aussi.
C'est vraiment universel. Mais là, vous utilisez les mots souveraineté, si je peux prendre 30
oui,
secondes,
bien
c'est,
sûr.
C'est un sujet important. Vous voyez, on parle beaucoup des souverainetés, on s'en est rendu compte avec ces crises sanitaires, du fait que dépendre d'autres entités ou d'autres pays qui n'ont pas forcément le même agenda quand il s'agit des crises majeures, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais vous voyez, pour les codes sources des logiciels, vu que les logiciels sont tous entremêlés, on a besoin d'avoir accès aux différentes sources et différentes briques logicielles pour tout ce qu'on fait. C'est important de pouvoir garder un accès libre et sans contrainte à l'histoire des développements de tous ces logiciels. Mais alors, pour faire ça, il faut que tous ces logiciels soient collectés dans un archive comme celui qu'on construit, qui est indépendant du pouvoir des uns aux autres des entreprises, qui ne dépend pas d'une seule entité. Et les mécanismes de miroir qu'on met en place pour préserver les codes des accidents, en réalité, répond aussi à un enjeu de souveraineté qui, pour une fois, n'est pas une souveraineté rivale. C'est-à-dire, c'est pas, si moi je suis souverain, vous ne l'êtes plus. Si moi je contrôle, je sais pas, les noyaux de la technologie d'Internet, vous êtes dépendant. Non. Si chaque pays ou chaque région ou chaque entité a son miroir, chacun est indépendant sans rien enlever à l'indépendance des autres. Vous voyez, donc c'est un peu ça vers quoi on essaye d'étendre. Mais c'est un discours qu'il faut expliquer, répéter, pour que petit à petit, les différents pouvoirs publics dans les différents pays puissent s'en saisir. Et vous voyez, la France a commencé à les faire. Il faut aller plus loin. et plus vite.
En Europe et ailleurs, autour de la question de Software Heritage, donc de cette bibliothèque universelle des codes sources, nous continuons de nous interroger ensemble sur cette véritable utopie hein, en marche, et c'est ça qui est bien, pour la préservation et le libre partage des connaissances. The Pursuit of Knowledge, joli titre de Zach Hemsey, se passer d'une oreille à l'autre et entre toutes les oreilles sur RFI. À la poursuite de la connaissance, morceau de Zach Hemsey sur, RFI. C'est pour vous, Roberto Di Cosmo, qui mettez toute votre énergie à collecter, préserver, partager en accès libre les codes sources des logiciels en open source. Justement, une aventure scientifique, une aventure humaine, un vrai défi de monter cette bibliothèque universelle des codes sources. Software Heritage protège notamment les codes sources de tous les langages informatiques déjà créés et puis qui vont être créés dans l'avenir, ce qui soutient et inspire les chercheurs de par le monde. Direction maintenant Nagoya au Japon avec le mathématicien Jacques Garrigue, professeur au département de mathématiques de l'université de Nagoya, où il développe un langage informatique OCaml déjà protégé par Software Heritage. Il s'en explique au micro de notre reporter Charlie Dupiot depuis Nagoya au Japon.
Sachant qu'il y a de par le monde des milliers de langages de programmation qui ont toutes des aspects intéressants, chacun invente son petit cocktail qui est censé pouvoir permettre aux gens de développer les programmes plus rapidement, plus agréablement. Et du coup, il y a des milliers de recettes, quoi, des milliers d'approches. L'enjeu, c'est de préserver toute cette diversité, donc les outils qui permettent de les utiliser. Si on n'a pas cet outil-là, le langage, il disparaît, parce que c'est comme avoir la grammaire d'un langage sans personne qui le parle, quoi.
Alors vous travaillez à l'université de Nagoya, donc au Japon. Est-ce que vous savez si cette idée de préserver des logiciels est partagée par certains de vos collègues japonais ?
Les Japonais sont assez sensibles à conserver des choses, des patrimoines plus intangibles. Vous savez, au Japon, un maître, c'est quelque chose de très important dans la culture japonaise, maître du thé, maître d'un art. Et ces gens peuvent être considérés comme des trésors vivants officiellement par l'État. Donc ça va un peu dans ces directions-là. Donc le logiciel pourrait rentrer dans cette catégorie-là, de quelque chose qu'il faut sauvegarder parce que ça fait partie du patrimoine culturel, parce qu'on s'en sert pour créer des choses.
Et finalement, que vous apporte à vous ce projet Software Heritage ? Est-ce que vous auriez un message à faire passer à notre invité Roberto Di Cosmo ?
C'est surtout une confiance, quoi, savoir que les choses ne vont pas être perdues. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, c'était au niveau individuel, prendre soin que tout ce que j'avais développé, je le gardais en état, quoi. Mais c'est beaucoup de travail. Savoir que les choses vont être préservées, ça fait chaud au cœur, quoi.
Ça fait chaud au cœur donc de tous les mathématiciens et informaticiens, mais pas seulement. Ça peut faire chaud au cœur de chacun de nous que de se rendre compte à quel point il est important de préserver et de partager. Parce que c'est les deux en même temps, c'est préserver et partager ces codes sources qui sont véritablement un langage, un patrimoine culturel, hein, on peut dire comme ça, de l'humanité, commun.
Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, vous voyez, dans les mots-clés qu'on utilise dans la construction de la bibliothèque, effectivement, il y en a trois, c'est collecter, donc aller chercher, préserver, ne pas perdre, et partager, rendre disponible à tous. Mais rendre partager avec tous de telle façon qu'on ne perd pas les traces des objets dont on veut parler. Par exemple, quand on fait un développement logiciel pour une recherche scientifique, qui peut être en biologie, en physique, en sciences humaines, en littérature, et on a besoin de savoir si ces résultats sont vraiment fiables, si on peut les reproduire. Parce qu'il n'y a pas des sciences sans capacité de vérifier, n'est-ce pas? Donc là, il est important que les logiciels soient utilisés dans cette démarche scientifique, puissent être archivés, identifiés, référencés précisément, de façon que quelqu'un qui veut comprendre comment le résultat a été obtenu puisse retrouver exactement la version du logiciel sur laquelle on a travaillé. Et c'est à ça qu'on s'attelle aussi. Vous voyez, non, on peut se chercher.
La question de la mémoire aussi, hein, c'est ça, de la mémoire.
Mais aussi des références pérennes, permanentes dans l'archive qui font en sorte que vous savez exactement de quel logiciel, à quel moment vous êtes en train de parler.
Fondamental. Fondamental pour la science, fondamental aussi dans votre démarche, hein, puisqu'on le rappelle, c'est ouvert à tous, disponible pour tous, dans cette démarche de science ouverte dont on parle aujourd'hui, dont l'UNESCO le fait porte-parole, l'IRD aussi, on parle de science ouverte, on parle de One Health, de santé globale, tout ça, ça va ensemble. Vraiment, la notion de science ouverte, c'est-à-dire que tout le monde qui en a besoin, tous les chercheurs du monde, où qu'ils soient, puissent avoir accès. C'est là aussi l'énorme avantage de cette bibliothèque universelle virtuelle, enfin, de code source, c'est qu'on peut, partout dans le monde, où qu'on soit, quelle que soit sa couleur, sa race, son niveau d'études, son gouvernement,
absolument, vous pouvez y accéder. Et là, effectivement, si vous regardez la science ouverte, tout le mouvement relativement récent, qui un nom récent pour quelque chose qui est profond, c'est-à-dire l'effet que les résultats de la recherche scientifique doivent être accessibles le plus largement possible, on s'est très souvent focalisé sur les publications, ce qui est la chose que tout le monde arrive à comprendre, même si c'est difficile de les lire, hein, des fois. Après, on a découvert qu'il y a les données, c'est important, parce que sans les données, on ne peut rien reproduire. Et c'est seulement récemment qu'on s'est rendu compte qu'il y a un troisième pilier fondamental, ce sont les logiciels. Et c'est pour construire ces piliers logiciels de la science ouverte que nous travaillons aujourd'hui, justement, la main dans la main avec le ministère de la Recherche. J'ai les privilèges de participer aux comités d'orientation de la science ouverte, dans lesquels on discute aussi du logiciel. Petit à petit, ça fait son chemin. Alors, il était plutôt inconnu au bataillon il y a un certain temps.
Et maintenant, il en fait partie,
ça, véritablement. Ça commence à en faire partie, même au niveau de l'Europe. Il faut que ça dépasse quand même toutes les limites et toutes les barrières.
Oui, et il faut que ça aille au Sud. C'est une manière aussi que ça l'atteigne au Sud, où il y a des jeunes développeurs, informaticiens, absolument, mathématiciens, qui ont des idées, qui ont des outils. Et là, ça peut vraiment ouvrir la science et ouvrir,
exactement,
la recherche et les données. Et
hein. Il ne faut surtout pas que ça soit considéré comme quelque chose de limité à un pays particulier. Et d'ailleurs, à ces propos, vous voyez, il y a un an, on avait travaillé avec l'UNESCO et avec mon ancienne université en Italie, qui est l'Université de Pise, là où l'informatique est née en Italie il y a plus de 50 ans. Parce que genre, c'était les cinquantenaires de la création du premier département d'informatique en Italie, qui était l'Université de Pise. Et à cette occasion, on a travaillé ensemble pour construire un protocole, un processus qui décrit comment aller récupérer les logiciels historiques dans chaque pays pour reconstruire l'histoire, les mettre en valeur, les archiver dans certains endroits et les rendre facilement disponibles. C'était une aventure très intéressante. Donc, ça s'appelle SWAP, Sort Heritage Acquisition Protocol. Et maintenant, il est disponible, il est promu par l'UNESCO pour qu'on puisse récupérer ces patrimoines historiques dans différents pays. Et là, vous voyez, on parlait des jeunes. Des fois, ça peut être intéressant pour des jeunes qui font plutôt des métiers techniques, comme en informatique, des choses comme ça, pouvoir avoir la possibilité de faire des stages, des petits travaux, à côté d'autres personnes qui ont plutôt une culture d'historien, d'archiviste, en allant reconstruire, retrouver dans sa propre institution, dans sa propre université, dans son propre centre de recherche, certains bijoux, et à aller parler avec les personnes qui sont encore vivantes, parce qu'on a la chance d'avoir la plupart du temps les gens qui ont développé tout ça encore là, pendant quelques années. Donc on peut aller les retrouver, reconstruire cette histoire, reconstruire les objets dont vous avez besoin, des connaissances techniques, historiques, humaines, Et c'est quand même une très belle aventure qui est ouverte à tous, dans tous les pays.
Très belle aventure, titanesque, monumentale. Alors maintenant, vous avez des ambassadeurs hein, aussi. Enfin, vous les promouvoir, c'est ça, des sortes d'ambassadeurs pour effectivement dire que ça existe, dire qu'on peut y participer, parler de l'importance, parce que même moi qui ne comprends pas grand-chose à l'informatique, je comprends l'importance de la préservation et du partage de ces codes sources. Vous voulez des ambassadeurs un peu partout ?
On s'était dit il y a longtemps qu'on aurait dû pouvoir démultiplier la capacité d'expliquer, de porter cette passion. Non, finalement, on l'a fait. Il y a quelques semaines, on a ouvert un programme d'ambassadeurs. Il suffit d'aller sur les sites web pour les retrouver.
Le lien est sur notre page, hein, le site de Software Heritage.
Voilà. Et donc, l'objectif... Alors, il ne faut pas oublier qu'on a une petite équipe. Hein,
mais l'idée, oui, c'est vous n'êtes pas nombreux pour tout ça. Hein.
Et l'idée, c'est d'accueillir des personnes qui ont envie de savoir plus, d'être plus en contact avec nous pour porter la parole ailleurs, dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines, un peu partout. Donc, on a ouvert les portes pour faire ça et on va essayer de faire en sorte que la prochaine fois, vous puissiez inviter quelqu'un d'autre pour vous parler du même projet.
Mais avec grand plaisir, avec vous.
Par exemple.
Et en plus, vous pouvez désormais un peu financer. Vous ne faites pas que demander des financements, mais vous avez un tout petit peu les moyens de vos extraordinaires ambitions.
Merci de me rappeler ça. Effectivement, pendant longtemps, et on continue, on a vraiment besoin d'avoir plus de financements. Donc,
bien
on a
sûr.
Besoin des mécènes, on a besoin des donateurs, parce que le travail est énorme. Mais on y travaille pas seulement pour obtenir des financements pour nous. Depuis un an, on a commencé à travailler pour obtenir des financements qui vont directement à des personnes qui contribuent au projet. On sait à travers une fondation hollandaise, qui est Nelnet, qu'on remercie, qui a financé deux petites entreprises qui ont travaillé avec nous pour sauver des logiciels en danger. On a sauvé un quart des millions des logiciels qui étaient en danger sur la plateforme Bitbucket. Et on l'a fait grâce à ces financements-là. On a réussi à faire bouger un peu aussi la fondation Sloan, qui est une grande fondation américaine qui nous donne des financements pour financer des gens qui travaillent avec nous. On espère de pouvoir faire ça plus et plus souvent, et aussi des fois peut-être des étudiants, mais on n'a pas les capacités financières énormément du monde. Mais on sait reconnaître la bonne volonté quand il y a quelqu'un qui veut travailler avec nous, on essaie de trouver un moyen pour qu'il puisse le faire.
Génial. Il ne reste plus qu'à souhaiter longue vie, très 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 longue vie, bien plus longue que la nôtre, à cette Bibliothèque universelle des logiciels. Jusqu'où nous entraînerez-vous, Roberto Di Cosmo ? On ne sait pas, mais on vous suit. De toute façon, vous revenez quand vous voulez pour nous en parler de ce projet Software Heritage. N'hésitez pas, chers amis auditeurs, donc à aller faire un tour sur cette plateforme, sur la newsletter aussi de Software Heritage. Le lien est évidemment sur notre page. À bientôt, Roberto Di Cosmo.
Merci beaucoup. Avec plaisir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les bonnes applications et sur RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain en compagnie de sacrés dessinateurs et autrices de bandes dessinées. Autour de la question, comment faire passer des bulles de science ? Et à la radio en plus, ça promet. Avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro pour vous servir. Chers amis auditeurs, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.